Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Et bienvenue sur cette libre antenne du dimanche soir. Je vous propose ce soir que nous abordions un thème particulier. Il existe une maladie qui touche plus de 3 millions de personnes en France, une maladie qui peut vous empêcher de parler, de rire, de manger, de travailler, de dormir ou même de vous lever le matin. Une maladie qui peut vous empêcher de vivre, cette maladie, c'est la dépression. Je vous propose donc ce soir que nous abordions ce thème de la dépression, un thème qui nous concerne tous, pour nous, pour nos proches. En France, on estime qu'une personne sur cinq a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie. Alors si vous êtes en plein dedans, ne restez pas seul, venez en parler ce soir sur cette libre antenne. Appelez-nous au 3921, Hassan et Thomas vous accueilleront en toute bienveillance pour vous guider jusqu'à moi. Si vous êtes passé par une dépression et que vous avez réussi à redresser la tête, venez aussi prendre la parole pour éclairer le chemin des autres à la lumière de votre expérience. Appelez-nous pour nous raconter, peut-être donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. La dépression, parlons-en librement ce soir jusqu'à 1h du matin sur la libre antenne d'Europe 1. La difficulté à comprendre ce qui nous arrive, la honte, la culpabilité, la souffrance invisible, l'impuissance, vous n'êtes pas seul à vivre ça, vous-même ou être face à quelqu'un qui le vit. Alors ensemble ce soir, partageons nos expériences pour tenter de mettre un peu de lumière sur les chemins les plus sombres. Pour prendre la parole par téléphone, vous faites donc le 3921. Pour participer par SMS, 73921 en commençant par le mot « nuit ». Vos SMS seront importants ce soir pour apporter un soutien à quelqu'un qui témoigne, pour demander à intervenir sur l'antenne si vous avez un commentaire à faire, ou tout simplement pour nous dire comment vous, vous vous en êtes sorti. À la réalisation ce soir, c'est Fabrice Fougerousse qui m'accompagne. Et le premier appel, dans un instant, ce sera celui de Christine.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Bonsoir à vous Christine. Allô ?
Oui, bonsoir Sabine.
Alors la dépression, ça vous dit quelque chose
hein ? Ah oui, plutôt oui.
Comment, oui, est-ce que ça, comment ça a commencé ? Oui, dites-moi.
Voilà, bah, je souhaitais témoigner, oui, parce que c'est quelque chose qui me touche. Bah, écoutez, j'ai toujours quelque part senti, je crois en moi, qu'il y avait un gros malaise, voilà. Mmh. Mais j'ai effectivement, vers l'âge de 42 ans, senti que je sombrais petit à petit. Voilà. J'ai d'abord beaucoup perdu le sommeil. Ça a commencé vraiment comme ça. Et puis ensuite, j'ai senti que je sombrais, que je sombrais, que je sombrais. Voilà.
À quel moment vous avez réussi à mettre le mot dépression sur tous ces symptômes ?
Bah, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'extrêmement volontaire et plutôt de gai et de très joyeux. Mmh. Et quand j'ai compris que j'étais triste, j'étais très fatiguée, je n'avais plus du tout envie de me lever le matin. C'était pour moi c'était surhumain de se lever. Mmh. Voilà, donc tous ces symptômes m'ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis voilà, j'ai été consultée avec beaucoup de difficultés parce que c'est très difficile d'admettre.
C'est
qu'on pense que c'est un coup de fatigue, que ça va passer.
Que ça n'arrive qu'aux autres et que nous, on est plus forts.
Voilà, et puis c'est surtout que... quand on est quelqu'un avec beaucoup de volonté, on se dit il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Et puis, on sait au fond de soi que ce n'est pas une question de... C'est-à-dire que moi, j'ai compris que c'était une dépression au moment où j'ai senti que ce n'était pas une question de volonté. C'est que je ne pouvais pas combattre. Voilà.
Ah, c'était très intéressant ça, parce que c'est tellement vrai. Beaucoup de gens se culpabilisent en disant « mais je ne comprends pas, j'ai la volonté d'en sortir et je n'y arrive pas ». Mais la volonté n'y peut rien.
Non, non, non. Ça, il faut vraiment le dire. C'est pas une question de volonté parce que j'avais de la volonté et j'en ai encore beaucoup. Mais c'est plus fort que soi. Voilà, c'est voilà. Et moi, ça m'est même donc c'est allé jusqu'à. Alors ça, c'est très difficile à dire parce que c'est vraiment quelque chose qui était méconnu et où je portais même des jugements. Enfin, peut-être pas des jugements, mais des
a priori.
Des des avis assez forts, parce que j'ai donc fait une tentative de suicide très importante. Mmh. Et
tellement vous aviez l'impression que vous n'en verriez pas le bout.
Ah ben c'est-à-dire que voilà, je voulais pas. Alors je suis pas sûre que je voulais vraiment mourir, hein, puisque la preuve, au dernier moment, j'ai eu un sursaut de vie, mais je voulais mettre fin à cette souffrance.
Ouais, c'est ça.
Voilà, qui était inimaginable. Enfin voilà, c'est inimaginable. Et voilà, et je me suis donc soignée, mais bon après voilà, il faut tomber sur les bons médecins, il faut peut-être qu'il y ait une bonne peut-être que c'était pas le moment. Je ne sais pas, parce que j'ai fait une deuxième tentative de suicide 2 ans après.
Alors que vous étiez sous traitement ?
Alors que j'étais sous traitement, alors que j'étais en psychothérapie, mmh. Pas avec des mauvais médecins, avec des très bons médecins, oui. Mais la souffrance était tellement profonde et tellement ancienne, et apparemment surtout une souffrance, alors là je répète et puis je commence à l'avoir compris, une souffrance qui venait de la naissance, comment vous pourrez m'aider Sabine, mais naissance, disons, je pourrais dire.
Attendez, pardonnez-nous, voilà. Il y a une coupure.
D'accord. Je disais une souffrance originelle, peut-être.
Oui. Bah souvent, la source de la dépression commence, les racines sont très très profondes. Et c'est pour ça que souvent, ça ne sert pas à grand-chose de travailler uniquement sur les conséquences, il faut vraiment aller nettoyer la cause. C'est une souffrance qui peut remonter à très très loin.
Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours senti, en fait, que j'étais... Alors, j'ai toujours senti que j'étais fragile, mais j'ai toujours combattu ça. Voilà.
Oui, puis on nous a dit, en nous disant qu'on est des bons petits soldats, qu'il faut tenir debout, qu'il faut mettre un couvercle là-dessus, jusqu'au jour, oui, où le couvercle saute.
Oui, ben voilà. Ben, c'est-à-dire que moi, on m'a tellement répété qu'il fallait être fort et qu'il fallait vaincre la douleur, que je ne l'ai pas écoutée pendant des années, voilà, jusqu'au jour où je me suis écroulée, en fait. Voilà.
Et quand vous vous êtes écroulée, quels ont été les commentaires ou les comportements des gens proches ?
Alors, mes amis, très surpris, parce que je représentais la joie de vivre, et puis je dirais même vis-à-vis de mes amis, comment je pourrais dire, la personne qui organise, enfin vous voyez, voilà. Donc très surpris, parce que tout le monde me disait, bah écoutez, on ne savait pas, on pensait pas.
Quoi, c'est ça.
Ben oui, parce que je donnais bien le change, et puis parce que finalement, j'avais une partie de moi, à mon avis, qui finalement voulait vivre aussi, enfin voilà, qui était...
Alors ça aussi, c'est important, oui, pardon, je vous coupe, mais c'est important parce que ce qu'il faut bien se dire quand on a une dépression, quand on fait une dépression, c'est qu'on a une partie de soi qui fait une dépression, mais qu'on existe quand même à côté.
Ben oui.
Il ne faut pas se laisser engloutir par cette dépression, il faut bien se dire qu'il y a une partie qui est malade et qui appelle à l'aide.
Oui.
Mais que ça n'est pas tout, toute son identité n'est pas engloutie par ça.
Ben voilà, alors moi j'ai compris. Alors je souhaitais témoigner parce que pour aussi dire qu'il faut garder espoir, parce que moi ça fait donc 10 ans pratiquement que je traîne cette maladie et je crois que je vais en sortir et que bien sûr, moi si on m'avait dit 10 ans, j'aurais dit mais c'est pas possible, il est hors de question que je traîne ça 10 ans. Mais alors avec des hauts et des bas, j'ai vraiment eu des hauts, j'ai vraiment eu des bas, mais que voilà, il y a deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est malade et une partie qui va bien. Moi j'ai compris avec la thérapie et tout ce que j'ai fait que c'était l'enfant qui hurlait.
Alors racontez-nous un petit peu quel a été votre parcours médical pour sortir de là.
Alors mon parcours médical, j'ai d'abord été prise en main par un psychiatre qui m'a à mon avis très mal soignée. Ensuite, bah, j'ai fait une première tentative de suicide. Donc, j'ai fait 1 mois d'hôpital psychiatrique. Ensuite, 3 semaines d'hôpital psychiatrique. Et ensuite, 15 jours. Voilà. Donc, bon, bah, là, il y a quand même des choses qui se passent. Vous rencontrez des gens différents. Donc, vous comprenez un petit peu. Et puis, en fait, j'ai rencontré à l'hôpital, lors d'une tentative de suicide, j'ai été, à mon réveil, une psychologue qui était formidable et avec qui j'ai repris 2 ans après contact. Parce que je l'avais trouvée extraordinaire à mon réveil et je peux dire qu'elle m'a sauvé la vie parce que je suis en thérapie avec elle maintenant depuis 4-5 ans et en fait ben, c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait la petite fille qui hurlait et la grande qui allait plutôt bien et que quand cette petite fille se met à hurler, ben, elle hurle. Voilà. Et elle n'est pas capable
C'est la grande qui pleure et qui ne comprend pas pourquoi.
Voilà. Alors, c'est la grande qui devrait la consoler, mais ça, c'est très compliqué à faire. Voilà. Enfin, j'ai beaucoup avancé pour vous expliquer tout ça, parce que, j'ai mis du mal à comprendre. Mais c'est la vérité, parce que je le sens que c'est comme ça. Mmh. Voilà. Donc, le parcours, c'est celui-là. Et puis ensuite, comme j'ai à nouveau, il y a très peu de temps, eu encore un bas, malgré tout ça. Parce que j'ai vraiment eu des moments où j'ai été très bien, mais j'ai eu à nouveau... Alors, c'est toujours déclenché par des choses. Hein. Bien sûr, c'est toujours déclenché par quelque chose qui vient toucher
Oui, c'est le facteur déclenchant et la vague revient.
Voilà, il y a toujours un déclencheur et ça revient. On ne sent pas forcément que ça revient, on est happé par ça. Et là, donc, j'ai décidé, moi, en vous écoutant régulièrement, et puis voilà, de démarrer de l'hypnothérapie. Mmh. Et j'ai donc fait récemment 3 séances.
Oui.
Écoutez, j'y allais en y croyant, mais en me disant, c'est pas miraculeux. Alors, c'est pas miraculeux, mais... Alors, à la première et à la deuxième séance, à la deuxième, j'ai senti un petit peu de mieux. Et alors, à la troisième, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mieux. Et je me sens... Alors, il y a certainement tout un ensemble, la thérapie...
C'est souvent ça, d'ailleurs. C'est souvent un travail cumulé, conjoint, qui permet d'avancer.
Ben oui, voilà, parce que je pense que et la thérapie, et hein, moi je suis en constante discussion avec ma psychologue régulièrement, parce que j'ai souvent besoin de son aide, mais je crois que je suis sur le bon chemin, voilà.
Ben, j'en suis vraiment très très contente pour vous. Est-ce qu'il y a des ouvrages, des livres que vous pourriez conseiller aux auditeurs qui vous ont fait du bien dans cette période-là ?
Alors moi j'ai lu le livre de... Alors attendez, c'est Philippe Labro. Tomber 7 fois et se relever 8.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des livres que je voulais recommander ce soir aussi. C'est un très bon livre.
Exactement. Qui m'a fait énormément de bien à l'époque, parce que Philippe Labro, c'est une figure. C'est quelqu'un, qui a la route. Parce que j'avais tendance à penser que c'était les gens faibles, qui faisaient des dépressions. Voilà.
Et ça, c'est très important, parce que la culpabilité joue énormément dans cette maladie, dans les débuts de cette maladie. On se sent sans valeur d'un seul coup, alors que ça n'a rien à voir.
Exactement. Parce que, si vous voulez, moi, je savais bien au fond de moi que j'étais pas faible, mais je me suis dit, tu dois bien te rendre à l'évidence que si. Et en fait, ce livre m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est Philippe Labro, en plus, il l'explique avec une vérité, et il explique que c'est au moment où il a été le plus haut, en plus. Je crois qu'il était directeur à ce moment-là d'RTL,
Tout à fait.
Et donc, c'est au moment, parce que moi, d'ailleurs, le moment où je suis tombée, c'est au moment où ma vie
Parce qu'on lâche les armes. En fait, tant qu'on se bat pour quelque chose, on est occupé.
Voilà.
On est toujours ce petit soldat bien solide. Et quand on est un peu prestable, alors on se dit, je peux lâcher. Et c'est là que tout remonte, en fait.
Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, ce livre m'a beaucoup aidée, parce que je me suis dit, mais Philippe Labro, parce qu'il est resté, je crois, couché presque 2 ans. Enfin, ça a été catastrophique. Et il est debout et il va bien.
Eh oui.
Voilà.
Alors, on a plusieurs messages pendant que vous racontez votre histoire, Christine. On a Héloïse qui nous dit, à ceux qui ne sont jamais passés par là, n'oubliez pas que vos clowns, entre guillemets, sont souvent les personnes les plus dépressives du monde. Quand vous disiez, je faisais bonne figure. Et c'est vrai que souvent, sont des gens qui sont gays, qui sont solides, qui ont l'air d'aller très très bien. Et le pire, c'est que quand l'entourage commence à dire, ah non, mais pas toi, mais c'est pas possible, on se culpabilise encore plus. On a l'impression qu'on les déçoit, c'est terrible.
Alors ça, vous avez trouvé, c'est ça. C'est que j'avais l'impression de décevoir et je me décevais aussi.
Et ça aussi, c'est souvent les gens me disent, je préférais avoir les deux jambes cassées parce qu'au moins sur un plâtre, on vient dessiner un sourire.
Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose de terrible et c'est complètement ridicule parce que bien sûr que non, mais moi j'ai souvent dit je préférerais avoir un cancer. C'est ridicule parce que bien sûr que non.
Non, mais parce qu'on cherche à ce que notre souffrance soit reconnue, soit vue.
Voilà, parce que là, si vous voulez, je hurle et
Et ça ne s'entend pas.
Mais voilà. Exactement.
Parce que vous avez bien compris que c'est la petite fille qui hurle à l'intérieur et qu'on ne l'entend pas.
Voilà. Et à quel point l'entourage est important. Parce que alors moi, je suis extrêmement bien entourée au niveau amical. J'ai des gros problèmes familiaux et c'est ce qui m'a certainement emmenée dans tout ce marasme. Mais c'est très important l'entourage. C'est-à-dire qu'il faut un entourage qui vous épaule, qui vous écoute et qui ne vous juge pas.
Voilà. C'est vrai, mais alors à l'heure des charges, pour avoir beaucoup parlé avec des conjoints de gens en pleine dépression, ils sont totalement impuissants et malheureux eux-mêmes parce que ils ne savent pas. Ils sont pas formés à ça. Ils sont complètement paumés quand ils voient leur épouse ou dans l'autre sens leur mari qui d'un seul coup se comporte comme un enfant de 3 ans qui pleure le matin. Ils sont totalement désemparés et c'est très très dur pour l'entourage aussi.
Oui, c'est très très dur. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle on le cache. Moi, j'ai longtemps, ma fille était quand même plus petite lorsque c'est arrivé, et moi, je faisais bonne figure jusqu'à temps qu'elle partait à l'école, et j'étais très bien lorsqu'elle rentrait de l'école. Enfin, j'étais très bien. Je faisais semblant lorsqu'elle rentrait de l'école, et j'étais au fond de mon lit la journée, parce que qu'est-ce que vous allez expliquer autour de vous ?
Et là aussi, c'est important ce que vous venez de dire, faire semblant. Moi, je crois que la dépression arrive quand il y a une partie de soi qui a plus envie de faire semblant.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Parce que, c'est-à-dire, moi, je luttais, en fait, intérieurement, mais ça ne se voyait pas. Mmh. Et je ne le montrais pas, et je ne voulais même pas me l'avouer. Et je crois qu'un jour, j'ai dit, ce n'est plus possible.
Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours en tirer un apprentissage. Et à ce sujet, il y a Feuille d'érable qui nous envoie un SMS et qui nous suggère un très bon livre écrit par Moussa Nabali, qui est psychanalyste, et qui s'appelle « La dépression, une maladie ou une chance ?» Point d'interrogation.
Oui, Non, mais j'allais vous dire. Alors, écoutez, je peux pas savoir. Il faudrait se reparler dans quelques mois.
Eh ben, prenons rendez-vous.
Oui, voilà. Mais je pense que quand on a traversé, alors maintenant c'est 10 ans, hein, avec presque 3 tentatives de suicide, je le souhaite à personne. Mais si c'est pour s'en sortir. Et retrouver la joie de vivre, peut-être encore mieux qu'avant, parce que si je suis guérie, ça aura peut-être valu le coup quand même. Et ça aura peut-être été finalement, c'est important ce que la personne vient de dire.
Et je suis persuadée que la dépression vient nous dire quelque chose de notre vie, une partie de nous qu'on n'a pas respectée, qu'on n'a pas écoutée ou pas soignée. Et que même si effectivement le rappel à l'ordre est brutal et violent et douloureux, ça nous permet de nous reconstruire autrement et de manière plus solide.
Oui, mais alors qu'on n'a pas soigné, c'est-à-dire que la vie, qu'est-ce que vous voulez dire
Exactement. Comme vous disiez, la petite fille intérieure, quand elle crie, j'ai pas voulu l'écouter. Parce qu'il fallait que je sois une maman, il fallait que je sois une épouse, il fallait que je sois bien au travail, parce que j'ai, etc., etc. On a toujours autre chose à faire que de s'écouter soi. Oui. Puis on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit ? Arrête de t'écouter, prends sur toi. À force de prendre sur soi, on craque, on lâche.
Oui. Alors, mon témoignage, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, si on sent quelque chose au fond de soi, parce que moi, sincèrement, je l'ai toujours su, hein. J'avais 10 ans, j'avais 8 ans, je savais qu'il y avait quelque chose, je savais que j'étais en souffrance. Alors, moi, mon grand regret, on ne peut pas refaire, mais c'est que j'aurais dû m'en occuper à 20 ans.
Et voilà. Et on a Héloïse qui nous écrit « J'ai le sentiment d'être née dépressive ». Et là, on partirait aussi dans des mémoires plus transgénérationnelles, des histoires d'émotions même que sa maman a pu vivre quand elle était enceinte. Parce qu'on peut naître effectivement avec un tempérament de quelque chose qu'on a gardé en soi, une souffrance, et qu'on n'arrive pas à exprimer. Mais c'est un autre débat, c'est les souffrances transgénérationnelles, ça j'en parle de temps en temps. Mais s'en occuper, exactement.
Donc si on peut ne pas tarder, parce que moi, le problème, c'est que j'ai toujours su, moi, à 20 ans, je suis allée consulter un psychologue, mais j'avais pas la force, j'avais pas les moyens financiers, et je me dis que j'aurais gagné du temps. Voilà, bon, mais c'est comme ça.
Il y a un temps pour tout. Peut-être que vous n'auriez pas eu la maturité nécessaire pour avancer aussi bien que maintenant à l'époque.
Peut-être, tout à fait.
En tout cas, Christine, je vous remercie beaucoup de ce témoignage. Et sérieusement, donnez-moi de vos nouvelles dans quelques mois. J'aimerais bien savoir comment tout ça évolue et tout ce que vous avez appris de cette maladie-là.
Oui, avec grand plaisir.
Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous embrasse.
Merci, Sabine. Au revoir.
Au revoir. Et je vais faire maintenant la connaissance de Jean-François. Bonsoir, Jean-François.
Bonsoir.
Alors, vous aussi, la dépression, vous connaissez ?
Oui, je la connais bien, son prénom, son nom, son adresse, tout.
Comment est-ce que ça a commencé chez vous ?
Alors, d'abord, avant de parler de moi, je voudrais souligner que tout ce que vous avez dit dans votre introduction, tout ce que vous avez listé, les différents symptômes, j'avais toute la liste.
Vous aviez tout coché ?
Malheureusement, oui, j'avais
le forfait all inclusive.
Ouais.
Souvent, c'est un peu un jeu de domino, un symptôme en entraîne un autre.
Oui. Et, enfin, c'était aussi pour souligner le fait que votre introduction était était bien. Voilà, remarquable. C'était exactement ça. Ça décrivait aux gens qui n'ont pas vécu ou qui considèrent que c'est un drame bourgeois, cette dépression, qui qualifie ça de déprime, que en fait ça atteint tous les types d'activités. Mmh. C'est quelque chose d'assez profond. La deuxième chose que je voulais dire avant de parler un petit peu de moi, c'était la personne précédente, c'est-à-dire que on se ressemble sur énormément de points. Là, que ça m'est arrivé également à 42 ans.
Ah oui.
Voilà. Alors, les Japonais disent, il y a une légende japonaise classique qui dit qu'on commence à décliner à partir de 42 ans. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que, comme vous l'avez dit ensuite, en fait, ça a été une nouvelle phase d'apprentissage. Donc, ça n'a pas été une phase de déclin. C'est-à-dire le fait de s'en relever est une phase d'apprentissage.
Ouais.
Et si on est suffisamment bien accompagné, si on a, on apprend énormément de choses sur soi, sur ses relations avec les autres.
Mmh.
Enfin, j'ai également lu. Si vous m'aviez demandé quel livre j'avais lu pour m'en sortir, le livre de Philippe Labreau.
On l'a mentionné.
J'ai lu aussi. Oui, j'ai lu aussi. Donc c'est curieux. En revanche, moi, je n'ai pas fait de tentative de suicide. Oui, c'est cette extrémité-là, cette extrémité de la tentative de suicide. En fait, le point que je voulais peut-être mettre un peu en lumière, c'est que la difficulté, c'est de l'accepter.
Exactement, oui. Déjà, le comprendre avant même de l'accepter.
Oui, exactement. Vous avez entièrement raison.
Parce qu'au début, ça s'est manifesté chez vous, les tout premiers symptômes ? Souvent, on n'imagine pas que c'est une dépression. On pense à une maladie, on va faire des examens.
Et surtout quand on est cyclothymique depuis presque toujours. Donc, c'est quelque chose d'assez normal d'avoir des hauts, des bas, mmh. et même d'avoir des bas assez bas. Plus bas que la moyenne, peut-être. Mais progressivement, et c'est toute la sournoiserie de la chose, c'est que vos hauts sont de moins en moins hauts, et vos bas de plus en plus bas. C'est une espèce de glissement progressif. Alors, il y a des jours où vous remontez, où vous dites « Non, non, mais finalement, ça va, c'était juste une petite déprime, ça va passer. » Et ça s'installe pendant des semaines et des mois, jusqu'à un point insupportable. Alors, effectivement, ce que décrivait votre auditrice précédente également, moi, ça s'est manifesté très physiquement par l'impossibilité de traverser la rue pour aller au travail.
Ouais. Et
c'est vraiment la rue que je fréquentais depuis 10 ans pour aller travailler. La dernière rue à traverser, mes gens m'ont refusé, mon corps a refusé.
Et ça, c'est quelque chose que les gens qui n'ont pas vécu n'arrivent absolument pas à comprendre.
Bien sûr, on ne peut pas partager ça avec quelqu'un. Ce n'est pas une douleur avec des symptômes qui sont mesurables. On peut pas faire une prise de sang pour mesurer votre taux de dépression, évidemment. Mais ça se manifeste par des choses physiques. Et donc, effectivement, la difficulté, c'est de la comprendre, peut-être d'accepter, comprendre, pas de réaliser, d'accepter de dire « on est en dépression ». Et en fait, pour commencer à s'en sortir, c'est comme s'il fallait accepter d'y rentrer.
Oui, c'est une belle phrase, oui, tout à fait. On n'a pas le choix, en fait. Pour la traverser, il faut y rentrer.
Oui,
tant qu'on tourne autour, on n'y arrive pas.
Tant qu'on évite. On peut, je pense qu'il y a des gens qui vivent avec une dépression plus ou moins latentes et qui ont des stratégies de diversion, de contournement pendant des années. Et s'ils passent au travers pendant toute leur vie, eh bien, tant mieux. Si ça se déclenche à un moment, au cours de la vie, par un élément qui est favorable, malheureusement, là, c'est extrêmement grave, parce que ces personnes ont accumulé pendant très très longtemps, pendant des années, pas des décennies parfois.
L'image que j'ai, c'est que ces gens-là, pendant des années, sont dans la réparation, comme s'ils colmataient les fissures, et à un moment donné, quand ça lâche, la dépression vous demande d'être dans la construction, plus dans la réparation. Mais avant de construire, il faut d'abord que le socle soit solide. Et quand on ne répare pas le socle, comme vous dites, pendant des années, on colmate les fissures. Les unes après les autres, de plus en plus vite, jusqu'à ce que ça ne suffise plus.
Oui, exactement. Mmh. Alors, je ne sais pas exactement si c'est ce qui m'est arrivé, mais effectivement, j'ai traversé plusieurs épreuves assez douloureuses dans ma vie. Mais j'ai toujours eu l'impression de m'en sortir pour deux raisons, parce que j'étais plutôt optimiste, finalement, et en me disant le jour se lève encore demain. Vous connaissez peut-être cette chanson de Barbara qui a été chantée par Jean-Louis Aubert, le jour se lève.
Oui.
Voilà, au bout de la nuit, il y a une aube, et c'était mon motto, c'était un credo, et je faisais confiance au lendemain. Mais un jour, ça n'a plus suffi. Et effectivement, peut-être que l'accumulation de toutes ces douleurs et tous ces et puis il y avait un traumatisme fondateur, car effectivement, je suis allé chercher avec un psychologue qui était un syndrome du paradis perdu.
Oui.
Qui remonte à l'enfance. Et je me suis sans doute retrouvé dans une situation professionnelle qui reproduisait ce schéma de paradis perdu. Et qui m'a fait une sorte de solde de tout compte. Et voilà. Et là, il a fallu que j'accepte de dire dépression, de le lire même. L'acceptation d'y entrer et de traverser cette zone, c'était le fait de voir écrit le mot par mon médecin.
Ah oui.
Oui, ça aide beaucoup. Puisque la personne qui a l'autorité médicale l'écrit,
c'est que c'est vrai,
et qu'il faut l'accepter comme vrai, et pas comme une fantaisie. Hein, vous voyez.
Et votre entourage à ce moment-là?
C'est assez curieux, mais effectivement, moi aussi, comme votre auditrice précédente, j'ai un entourage d'amis très proche, sans doute très compréhensif et très à l'écoute et très empathique. Mmh. Un entourage personnel qui a été sans faille. Voilà. Merci. Merci à ma femme.
C'est tellement important.
Oui. Ah ben oui, évidemment, ma mère, j'ai eu la chance qu'il n'y a pas eu de faille à ce niveau-là, et pas d'incompréhension ou pas de reproche.
Personne ne vous a donné l'impression d'être faible à ce moment-là?
Personne autour de moi, je sais pas si je dois dire oui ou si je dois dire non. Personne n'a été faible, oui, c'est cela. Mais c'était pas de la force que j'attendais.
Non, je vous demandais si personne ne vous a donné l'impression que vous étiez faible.
Ah, pardon.
Vous savez, les petites remarques du genre, non mais prends sur toi, allez, courage, tu vas y arriver. Parce que si on pouvait prendre sur soi, on le ferait. Et ces petites phrases-là, souvent, elles font plus de mal que de bien.
Oui. Sur toi, ou tu prends les choses trop à cœur.
Oui, c'est ça.
On a déjà entendu ça. Non, je n'ai pas eu ce genre de choses. Non. Et ça n'est jamais un encouragement pour la personne. On ne peut pas... Ça n'encourage personne. Dire à quelqu'un n'est pas peur.
Exactement, ça n'enlève
personne
rien.
Personne qui a une phobie La personne qui a une phobie, vous avez beau lui dire n'aie pas peur, ça lui fait penser à l'objet de sa phobie et donc ça renforce sa phobie. Ce n'est évidemment pas une solution.
Oui, il y a Héloïse qui envoie un petit message en disant on souffre d'autant plus qu'on a conscience de ne plus pouvoir faire les choses et de ne plus supporter des choses qui pourtant paraissent si faciles et si évidentes. Parce qu'en plus, on en a conscience, c'est ça qui est terrible.
Oui, il y a un dégoût profond pour des choses qu'on pensait aimer auparavant. Et la chose rassurante, c'est qu'éventuellement, on pourra les aimer à nouveau après.
Alors justement,
différemment.
Racontez-nous un petit peu ce parcours. Comment vous avez avancé, cheminé et comment vous en êtes sorti?
Comme je disais tout à l'heure, d'abord, la première des choses, c'est accepter d'y entrer. Ne pas prendre des chemins détournés, ne pas faire demi-tour. Et ça, c'est le plus difficile, puisque effectivement, on est dans un état d'absolue perte de confiance en soi. Donc, le chemin de la réparation est très difficile à envisager. Il y a un moment, il faut se laisser porter un petit peu par la gentillesse de son médecin, des amis, et accepter de dire « Ok, ça m'arrive. Mmh. » Voilà, ça m'arrive.
C'est la première brique de la reconstruction, ça.
Je ne sais pas, c'est mon expérience personnelle. Je ne sais pas si elle serait valable pour chacun. Je le crois parce que je l'ai vécu, mais c'est peut-être qu'une croyance et peut-être que des professionnels me démentiraient. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai vécu en disant, ok, d'abord, on va... Mais peut-être que c'est ma formation aussi. C'est avant de déterminer un cap, on fait le point en navigation. Et donc, j'ai fait le point. Voilà, je me suis dit, voilà où j'en suis. J'y suis. Voilà. Comme maintenant, comment fait-on? Comment fait-on pour... D'abord, j'ai quitté le milieu professionnel où j'étais. Enfin, pas le milieu, mais l'entreprise où j'étais.
Oui.
Elle n'était sans doute pas responsable de tous mes maux, mais j'avais la sensation que sans rupture, je n'allais pas arriver à changer et à apprendre suffisamment pour me réparer et partir vers de nouvelles aventures. J'ai considéré que le corps était un ami et un allié et qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là, l'aspect physique de la chose. Je me suis remis à du sport de façon intensive, pas pour m'y perdre, pas pour avoir des illusions de sensations physiques, mais pour me confronter à une opposition physique. Donc j'étais incapable de me confronter à un choix dans la période de la période la plus profonde de la dépression. Je ne savais plus faire un choix. Est-ce que tu veux un dessert, tu veux un yaourt ou une pomme?
C'est insurmontable.
S'il te plaît, choisis pour moi. ça peut paraître curieux, mais ça allait jusque-là.
Avec donc, le recul, ça fait rire, mais quand on est dedans, c'est vraiment ça.
Oui, aujourd'hui, j'essaie d'en rire, mais à mon propos, pas au propos des autres. Oui, l'aspect physique a été un aspect important. Se remettre au sport et même à un sport de combat, en fait, avec une dureté physique certaine. Pas pour me faire mal, pas pour me martyriser, pas pour me punir de quelque chose, mais pour que, au moins, le corps, avoir des sensations de contact physique et d'opposition, donc me mettre dans une position, dans une attitude, voilà, de combativité. Ce que l'intellect était incapable de faire.
Et est-ce que pendant ce temps-là, vous preniez un traitement antidépresseur?
Alors, juste avant la prise de conscience, effectivement, il y a eu une période avec un peu de chimie, un peu de médicaments, un peu d'antidépresseur, très courte, une période pendant laquelle j'ai dormi pendant 2 semaines. Moi, je dormais 15 heures par jour.
Ouais.
Ce qui m'a aidé sans doute à prendre conscience inconsciemment. Enfin, je sais pas le processus de rangement du cerveau pendant le sommeil a sans doute fait son travail. Mais ça a été une période très très courte, la période de prise d'antidépresseurs.
Donc comment vous avez avancé?
Il n'y a pas de règle absolue. Je veux dire, si une personne en a absolument besoin pendant une période longue, eh bien, il faut suivre l'avis des professionnels de santé. Moi, j'avais une peur, c'était l'addiction. D'abord parce que toutes les addictions en général, je suis très prudent avec ça, j'ai très, très peur de ça. Enfin, je suis très ferme par rapport à ça. Donc pour moi, ce n'était pas une option, l'addiction aux médicaments.
Donc comment vous avez fait en dehors du sport?
Je suis allé à l'école, je suis retourné à l'école. Donc, je suis rentré vraiment dans un processus de réapprentissage. De reconstruction d'une confiance par des lectures, effectivement, et par le fait d'obtenir une légitimité auprès d'une grande marque d'école privée à Paris. J'ai reconstruit de la confiance en disant, puisque j'ai pu entrer dans ce cursus-là et que je l'ai réussi, j'ai restauré, je crois, la presque entièreté de la confiance que je pouvais avoir en moi. Peut-être même plus, même. Je pense que j'ai gagné encore plus. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment un processus de, un, accepter, deux, c'est difficile à dire, mais de remise en question. C'est franchement pas le meilleur moment pour se remettre en question. Puisque déjà, les autres vous ont remis en question. Et votre fierté s'est effondrée. Tout votre être est remis en question.
Combien de temps il vous a fallu pour arriver au bout de ce chemin?
Je sais pas si je suis au bout du chemin. Je sais pas. Je sais toujours pas. Ce que je sais, c'est que j'ai plus de bas comme j'ai pu avoir pendant, disons, une petite année. Allez, une dizaine de mois.
Vous arrivez à la traverser la rue maintenant?
Oui. Oui, oui. J'arrive à traverser les rues. Mais parfois, il faut pas craindre la rechute. La légère rechute, la petite déprime passagère, et plus en faire un monde. Je pense que quand on a traversé une fois l'épreuve, on est plus fort, mais on n'est pas fort en permanence.
C'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'il y a énormément de gens qui ont très très peur de la rechute et qui se disent qu'ils vont retomber aussi profondément que la première fois. Vous pensez que non?
Je ne fais pas de généralité, mais je pense qu'il faut quand même avoir... si on arrive à reconstruire suffisamment de confiance en soi, on arrivera à se relever 8 fois si on tombe 7. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'arithmétique de Philippe Labro, mais c'est le principe qui compte. Si on s'est relevé autant de fois, je pense qu'au bout d'un moment, enfin, on peut avoir confiance dans le fait qu'on va se relever une fois de plus. Et qu'on a cette capacité de résilience. Il y a quelques mois, j'étais en transition entre deux jobs. J'ai voulu faire, vous savez, l'exercice mes qualités, mes défauts, positifs, négatifs. Mm-hmm. Ça se fait. On vous conseille de le faire parfois. Et j'ai mis un seul mot et je l'ai mis uniquement dans la colonne positif. Et j'ai enlevé tout le reste. Enfin, j'ai même pas écrit tout le reste, tout ce qui m'était venu à l'esprit. Et je dis, en fait, non, la seule qualité essentielle que tu as développée, c'est la résilience. Ouais. Le reste est accessoire. Voilà. Mais la peur de la rechute, comme on dit, chat échaudé, craignant l'eau froide. On craint beaucoup la rechute.
Mais vous dites que, voilà, vous, en tout cas, la rechute ne vous a pas effrayé et vous sortez quand même plus fort de tout ça, finalement.
Oui, oui, parce que je ne sais pas si j'en suis
en tout cas,
sorti dans l'absolu.
Vous en avez appris beaucoup de choses.
J'ai appris énormément de choses et je continue d'en apprendre et je continue ce processus de remise en question parce que régulier pour continuer à apprendre et acquérir de nouveaux points de vue et continuer de consolider ma confiance.
Merci Jean-François.
J'espère que ça a aidé. J'espère que
c'est
formidable.
Chaque témoignage est toujours intéressant parce que chacun y pioche une information, un mot, un soutien. On a beaucoup, beaucoup d'appels ce soir, donc je vais en rester là. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Je vous en prie, avec plaisir.
Et je
vais continuer à écouter votre émission.
C'est gentil, je vous embrasse.
Merci.
Au revoir.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et c'est l'appel de Corinne que je prends maintenant. Bonsoir Corinne. Allô ?
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir Corinne. Juste, vous savez, comme il est 57, on va juste faire connaissance.
Oui.
Vous savez, vous connaissez le principe.
D'accord.
On fera une petite pause dans les infos et je vous récupérerai juste après. Comme ça, les bases sont posées. Alors racontez-moi votre histoire à vous.
Eh bien écoutez, donc moi je m'appelle Corinne, j'ai 59 ans bientôt et j'ai vraiment craqué très très fort en 2010. Mmh. Mais ça a été progressif avec un enchaînement de difficultés. Je pense que là il y en a une trop forte qui a emporté tout l'ensemble. Et depuis 2010, je remonte gentiment. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment arrivée à quelque chose d'assez paisible et même d'assez joyeux.
Alors pareil, voilà, pour vous, quels ont été les premiers signes un petit peu inquiétants ? C'était physique ou plus moral ? Ou les deux ?
Les deux, enfin, c'était mon lit. Ça a été de plus en plus une attraction vers mon lit. Il n'y a que là que j'étais bien.
Sous la couette en boule,
sous la couette en boule, ne plus manger, ne plus me laver. Enfin, ça a été sur des semaines, hein. J'arrivais quand même à donner le change au bureau et puis à l'été j'ai craqué. En fait, c'est un déménagement qui a fait que j'ai craqué. Là, ça a été trop. Mes cartons partout, je savais pas par où commencer, il y avait personne pour m'aider.
D'un seul coup, ça devient insurmontable.
Oui, quand j'ai eu cet appartement, je crois que je me suis couchée devant les cartons et je me suis plus relevée, on va dire. Puisque j'ai emménagé le 1er juillet, j'ai fait une TS le 26 août. Et toutes ces semaines-là, ça a vraiment été... Il faisait très beau, je me souviens.
Mmh.
Et ça a été une déréliction, mais vraiment constante, progressive. Plus se lever, plus se laver, plus manger.
Et donc, comme la première auditrice tout à l'heure, vous vous êtes allée jusqu'au suicide.
Oui. Oui. Et ce n'était pas un appel au secours, en plus, dans ma tête. Du tout.
Vous voulez que ça s'arrête ?
Ah, vraiment ?
Ouais.
J'avais l'impression d'avoir tout essayé. C'était pas la première fois. Hein. J'avais déjà eu un épisode très très dur en 1998. C'est pour ça que je confondais les dates. En fait, c'est en 2010. Mais le premier, c'était en 98.
Mm-hmm.
Et j'avais déjà fait un séjour de 3 mois. Mais mes enfants étaient petits. Et j'avais vraiment lutté pour remonter, etc. Ça avait été long, mais j'y étais arrivée. Et là... Là, il m'est tombé un autre truc sur la tête qui était une arnaque. Voilà, je me suis fait dépouiller de mon argent et là, ça a été trop. C'est qu'il y avait déjà énormément de choses, la solitude, élever 2 enfants toute seule, au travail, c'était pas facile, financièrement, c'était pas facile. Enfin, il y avait déjà une multitude de difficultés, pas de soutien familial. Et alors, cette escroquerie qui m'a quand même fait perdre 57 000 euros,
ah oui.
Là, ça a été le coup de grâce. Là, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas possible, t'avais déjà rien, enfin, c'était déjà compliqué. Là, c'est en plus ce que tu pensais laisser à tes enfants, c'est en plus, tu passes pour une idiote, enfin, il y a un côté aussi, j'ai honte.
Ça vous a achevé, ça.
Ah, ça m'a achevé, le procès m'a achevé, ouais, complètement. C'était en 2010 et c'était au mois de mai.
Alors, on va devoir se séparer quelques instants.
D'accord.
Corinne, si vous le voulez bien, on parlera ensuite du parcours, les traitements, ce par quoi vous êtes passée.
D'accord.
Et comment aujourd'hui vous vous sentez, d'accord ? Vous nous raconterez tout ça en détail dans un instant.
Ok.
Merci beaucoup, à tout de suite. Vous écoutez Europe 1. Il est minuit. Et on retrouve Sophie Tussaud pour un dernier point sur la faux. Bonsoir à vous Sophie.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le nouvel appel de la mère de Vincent Lambert pour sauver son fils. Dans une semaine, les élections européennes et puis les trophées du football. Une nouvelle récompense pour Kylian Mbappé.
Europe 1.
Les proches de Vincent Lambert étaient mobilisés ce dimanche après-midi devant l'hôpital Sébastopol de Reims. Un rassemblement contre la décision des médecins d'arrêter demain les traitements qui maintiennent en vie cet homme en état végétatif depuis plus de 10 ans. Écoutez David Philippon, le demi-frère de Vincent Lambert.
Vincent n'est pas en fin de vie. On veut le mettre en fin de vie. Et aujourd'hui, c'est notre cri de désespoir. Il n'y a que M. Macron maintenant qui pourrait faire quelque chose, qui pourrait respecter ses engagements internationaux. Il ne le fait pas. Il s'assoit dessus. Et dans quelques semaines, il me semble, très prochainement, la France va être à la présidence de l'Union européenne. Quel message il lance? On s'assoit sur tous les accords internationaux? C'est inadmissible. Notre préoccupation à l'heure actuelle, c'est d'entourer Vincent, d'arriver à le faire transférer. Et on fait confiance à la formidable équipe d'avocats qui est derrière nous depuis tant d'années, qui vraiment font un travail formidable. L'équipe de médecins, on ne désespère pas. On se bat jusqu'au bout.
David Philippon, le demi-frère de Vincent Lambert au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui. Les parents de Vincent Lambert ont fait savoir qu'ils déposeraient ce lundi de nouveaux recours juridiques. Dans une semaine, les élections européennes, La République En Marche et le Rassemblement National sont en tête dans les sondages. Pascal Canfin, numéro 2 de la liste LREM, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos a dénoncé l'incursion de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, dans la campagne électorale.
Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump, de l'extrême droite américaine, est en France en ce moment, qui paye ses nuits à 2 500 €. Ben, ça m'intéresse de savoir quels sont les circuits financiers qui sont derrière tout ça. Il a évidemment le droit d'être en France. Simplement, le message qui est passé, c'est quoi? C'est qu'on est au fond face à une sorte de nouvelle internationale. Salvini, Le Pen, Orban, Trump, Bannon, Poutine. C'est ça le système qui est en train de se concrétiser pour détruire l'Union européenne. Et Steve Bannon, il dit, il y a deux pays clés dans cette élection européenne, l'Italie et la France. La répercussion sera non seulement française, bien évidemment, mais elle sera européenne, tout le monde va regarder, et elle sera mondiale.
Pascal Canfin, numéro 2 de la liste LREM, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Le ton continue de monter entre les États-Unis et l'Iran et ce soir, Donald Trump menace directement le pays dans un message sur Twitter. Le président américain écrit que si Téhéran veut se battre, ce sera la fin de l'Iran. Pas d'explication, mais un mea culpa. Pour la première fois depuis les crashs des 737 MAX en octobre et mars dernier, Boeing reconnaît une défaillance. C'est le logiciel qui servait à former les pilotes sur ces appareils qui est en cause. L'avionneur américain indique avoir apporté des corrections sur les simulateurs de vol mais ne précise pas quand il s'est aperçu des défauts. Le milieu du football sur son 31 ce soir. C'était les trophées UNFP. Nouvelle récompense pour Kylian Mbappé avec 32 buts cette saison. L'attaquant du PSG est sacré meilleur joueur du championnat de France et pour la troisième fois d'affilée, il reçoit le trophée du meilleur espoir de Ligue 1. Julien Froment, vous avez assisté à la cérémonie, vous venez juste de revenir dans les locaux d'Europe 1 et à l'occasion justement de ces trophées UNFP, eh bien Kylian Mbappé a laissé planer le doute sur son avenir.
Oui, il a pris un petit peu tout le monde de court, Kylian Mbappé, aux alentours de 23h quand il a reçu son trophée du meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Vous l'avez dit, 32 buts inscrits cette saison. Kylian Mbappé a déclaré « Je suis à un tournant de ma carrière, je souhaiterais avoir plus de responsabilités au Paris Saint-Germain » ou ailleurs. Ça a semé le trouble, cette déclaration de l'international français qui a signé il y a 2 saisons au Paris Saint-Germain. On sait que des clubs étrangers sont très intéressés par l'international, notamment le Real Madrid de Zinedine Zidane. Kylian Mbappé qui met la pression sur ses dirigeants. Il souhaite peut-être une nouvelle prolongation de contrat ou avoir en effet plus de responsabilités du côté du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, l'été s'annonce très agité et du côté de Paris et du côté de Kylian Mbappé.
Oui, on gardera un œil sur le mercato. Merci Julien Fourmont du service des sports d'Europe 1. Puis autre récompense de cette soirée à Christophe Galtier qui a mené Lille à la deuxième place du classement cette saison et sacré meilleur entraîneur de Ligue 1. L'autre événement de cette soirée était culturel. C'est Alain Delon qui était à l'honneur à Cannes et c'est en larmes que le monstre sacré du cinéma a reçu des mains de sa fille Anouchka une palme pour récompenser l'ensemble de sa carrière. L'acteur de 83 ans qui a tourné avec les plus grands a remercié le public à qui il a voulu dire au revoir. La météo, Valérie Darmon, il va faire un petit peu plus doux.
Et oui, enfin, le matin entre 7 et 13 degrés du nord au sud. L'après-midi, les maximales qui seront en légère hausse, comprises entre 18 et 21, avec des pointes à 23 près de la Méditerranée. On retrouvera donc des niveaux de saison. Il fera également 19 à Paris, 20 degrés à Nantes et Angers, 21 à Charleville et Marseille, et donc 23 à Nîmes. Côté ciel, dans le nord-ouest, alternance de cumulus et d'éclaircies avec quelques ondées si vous habitez entre la Normandie et la Sologne. Dans le sud-ouest, retour d'un temps sec près du littoral aquitain, mais un risque d'averse l'après-midi du Béarn au Périgord jusqu'en Limousin, ainsi que sur les Pyrénées. Bourgogne, Jura, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence, Côte d'Azur et Corse, vous passez la journée sous la menace d'averses qui peuvent prendre un caractère orageux.
Merci Valérie Darmon. Vous êtes sur Europa. Il est tout juste minuit passé de 6 minutes. Et c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Passer ensemble et en direct sur Europe 1 dans cette libre antenne spéciale autour de la dépression. Si vous êtes en plein dedans, en pleine dépression, ne restez pas seul, venez en parler ce soir, venez prendre la parole. Jusqu'à 1h du matin, vous pouvez appeler le 3921. Hassan et Thomas vous accueilleront en toute bienveillance pour vous guider jusqu'à moi. Et si vous êtes passé par une dépression, si vous en êtes sorti, n'hésitez pas aussi à appeler pour venir éclairer le chemin des autres. Racontez-nous votre expérience. 3921 par téléphone et pour participer par SMS, comme vous êtes très nombreux à le faire ce soir et je vous en remercie, 739-21 en commençant bien par le mot nuit.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et je reprends la conversation que j'avais avant les infos avec vous, Corinne, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Donc comment est-ce que vous avez commencé à vous en sortir ? Quelle est la première chose que vous avez faite ?
Alors la première chose que j'ai faite, là j'ai pas vraiment eu le choix, mais je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique pendant 6 semaines. Mmh. Et peut-être que si j'ai quand même fait des choses là, en me refermant complètement, en me protégeant complètement, j'allais à minima avec les autres malades, j'ai fait beaucoup de puzzles dans ma chambre, et me retrouver une espèce d'univers qui m'était propre, et justement ce puzzle, enfin c'est idiot, mais ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a vraiment... Voilà, je voyais les gens au moment des repas, mais en fait, ça a été plutôt une reconstruction. Mais bon, j'allais encore très très mal. Hein. J'ai essayé 2 fois de me suicider au sein même de l'établissement. Donc j'étais encore dans une fragilité démente, très grande. Le psychiatre m'a laissé sortir, je me demande vraiment comment, au bout de 6 semaines, parce que vraiment, j'étais vraiment pas vaillante. Et moi, je me suis dit... écoute Corinne, ma cocotte, puisqu'ils t'ont sauvée, c'est que c'était pas le jour, alors maintenant tu arrêtes. C'est pas... Voilà, ça n'est plus d'actualité cette affaire, maintenant tu regardes ce que tu peux faire devant. Mais j'avais bien conscience que j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais dans un état de fatigue, d'épuisement, d'envie de rien. Et j'ai cherché une clinique qui pourrait me recevoir. Et ça a été le premier pas, vraiment. Parce que j'ai monté ce projet... Et c'était loin, hein. Moi j'habite en Mayenne, je suis allée jusqu'à Lyon pour trouver une clinique qui était géniale, qui était à Chaponneau et qui avait encore des méthodes à l'époque, je pense que ça a bien changé depuis, mais qui avait encore une philosophie, l'approche du patient, enfin, qui était intéressante. Et donc j'ai passé 3 mois là-bas, Et ce qui m'a aidée d'abord, c'est des séances de MDR que j'ai faites sur place.
Oui.
Je ne connaissais pas du tout avant.
Mmh.
Donc ça, ça m'a quand même bien aidée parce que ça m'a quand même révélé aussi... Enfin, là, voilà, au-delà des choses qui s'accumulent, il y a aussi des petits actes traumatiques.
Des traumatismes du passé qui sont toujours là. Ouais.
Voilà. Donc, on n'est pas trop conscient. Hein. Dans mon cas, je n'étais pas trop consciente, mais j'ai vraiment touché du doigt mon ressenti d'abandon quand j'étais vraiment très petite.
Ouais.
Comme si la lumière s'éteignait. Enfin, c'est l'image qui a été là. Enfin, voilà. Et petit à petit, alors j'avais aussi un psychologue que je voyais tous les jours qui m'a beaucoup aidée. Donc, il y avait le psychiatre avec le MDR, il y avait le psychologue. Il y avait vraiment une équipe quand même formidable. Et je sentais qu'on me laissait le temps. C'était un endroit où on me laissait le temps d'être. Bon, il a fallu quand même que je quitte parce que ma fille avait 14 ans.
C'est un endroit, pardon, je coupe, mais c'est un endroit où on a le droit d'aller mal et le temps d'aller mieux.
Oui, c'est complètement ça. Qu'il y a une solidarité entre malades, et pas que d'ailleurs, avec le personnel soignant possiblement aussi. Enfin, il y a des très jolis moments. Il y a vraiment des très jolis moments d'intenses relations amicales et tendres. Enfin, moi, j'ai rencontré là-bas une amie, vraiment une amie, Maggie. On est toujours en contact toutes les deux.
Parce qu'on va à l'essentiel dans ces moments-là. On joue plus
exactement.
Rien. Exactement. On arrête de faire semblant, là.
Oui, et puis on est tellement tous cabossés qu'on a aussi beaucoup besoin d'être joyeux. Donc, très étonnamment, il y a des moments très joyeux. Il y a des moments terribles, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de suicides en plus, vraiment, y compris dans la bande de gens que je connaissais. Mais le désespoir et le rire, peut-être, ça peut être frère et sœur, je ne sais pas, à certains moments. Mais en tout cas, une grande solidarité. Enfin, moi, je trouve qu'il y a eu des très belles choses, mais vraiment de solidarité, d'empathie, de soutien, d'humanité. Et du coup, quand je suis revenue chez moi, et ça a été dur, de n'avoir plus cette espèce de cercle.
Ce cocon, oui, bien sûr. On a l'impression d'être jeté dans le grand bain d'un seul coup.
Complètement. Complètement, c'est vraiment ça. Quand je suis revenue en Mayenne, en plus c'est 800 km, enfin, vraiment je quittais tout mon monde là-bas. Et je ne le quittais pas à mon heure. Je le quittais parce que ma fille, qui avait 14 ans, avait besoin que je sois là. Et donc j'étais tiraillée entre la conviction que j'avais qu'il me fallait encore du temps. Et en même temps, l'urgence qu'il y avait à m'occuper de ma fille.
Et ça, je crois que ça va résonner chez beaucoup de mamans, ça.
Oui, ouais. Ça, c'était compliqué. Je ne pouvais pas la laisser seule. Je sentais qu'elle était jeune et c'était déjà très compliqué entre nous deux. Et je me suis dit, non, il faut que j'y aille. Donc voilà, je suis rentrée au bout de 3 mois. Et là, ça a quand même été très, très difficile. Et surtout, les réactions des gens, hein, que ce soit ma famille, mes amis... Ça a été assez affreux. Quand un enfant ne se suicide pas, comment t'as pu faire ça ?
Le jugement directement, quoi.
Direct. Fallait nous demander, on était là. Enfin, bon, bref, hein, le truc horrible. Et là, j'ai pris des décisions. J'ai coupé avec les membres de ma famille que je considérais comme étant vraiment trop toxiques.
Toxiques, ouais. C'est aussi ça, c'est important ce que vous dites. C'est aussi ça, la dépression. Ça nous apprend rapidement à plus avoir les moyens de fréquenter des gens négatifs.
C'est ça, vraiment. C'est ça.
C'est juste, c'est même pas qu'on veut plus, c'est qu'on ne peut plus.
C'est ça. C'est ça. Et mais, enfin, voilà, vous avez complètement raison. Je sentais que c'était vital. Enfin, on sent que c'est vital. C'est ça où on va ressauter. Bon, voilà. Donc, c'est vital. Mais ça fait quand même que je n'ai plus vu mes frères pendant 7 ans. Enfin, un que je ne vois toujours pas, que je n'ai jamais revu. Quand je dis 7 ans, non, on est en 2019, oui. Donc, c'est depuis 2011. Vous avez plus que ça, vous avez 8-9 ans. Et puis l'autre que je revois par hasard, de temps en temps, mais je suis restée extrêmement farouche désormais.
Oui, on se protège.
Donc je n'ai plus de frères, on va dire. Et quant à mes parents, j'ai mis beaucoup de temps pour revenir vers eux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de colère qu'ils puissent se permettre de me dire, voilà, ces horreurs, quoi. On ne fait pas ça quand on a des enfants. Enfin. Et... En fait, ce que j'ai appris, c'est que moi, le fait du suicide, c'est justement quand on met le son fort, de plus en plus fort, et qu'il n'est jamais entendu. Et qu'on va jusqu'au bout pour être entendu, mais on n'est pas entendu. Et quand j'ai été sauvée, ce que j'ai réalisé, mais petit à petit, c'est Corinne, maintenant ça ne te sert plus à rien de crier. Maintenant tu le sais que tu ne seras jamais entendu de ces gens. Alors renonce.
Et là, il y a une acceptation qui vous permet d'aller plus loin.
Exactement.
Oui, c'est ça.
J'ai renoncé à eux, j'ai renoncé à me faire aimer de mes parents, j'ai renoncé à me faire entendre.
Voilà, quand on comprend qu'il y a des combats qu'il faut arrêter de mener, on en mène d'autres qui sont meilleurs.
C'est ça. Et en plus, ils m'ont mené aujourd'hui à être en paix. C'est qu'aujourd'hui, mes parents sont très âgés et je suis là pour eux. Mais je ne suis pas là tous les jours collée. Hein. Je suis là, mais assez loin.
À la bonne distance. Mais
à la bonne distance, exactement. On a mis tout ce temps-là pour trouver la bonne distance. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée quand même, que je lui rende hommage, c'est mon psy. Mmh. Il a été fantastique. Et même quand j'étais à Lyon, j'y suis allée en Noël, hein, donc c'était vraiment pas cool du tout. Et au Nouvel An, enfin, au début d'année, il m'a envoyé une boîte de chocolat. Bah, cette boîte de chocolat, je ne l'ai pas gardée, hein, mais elle me fait encore chaud au cœur. Enfin, il a vraiment mis quelque chose là de l'humain et de la main tendue. Enfin, ça a été énorme. Et au-delà de ça, on se téléphonait tous les 15 jours pendant les 3 mois où je suis restée là-bas. On se donnait un temps aussi d'une thérapie ensemble à distance pour reprendre, pour préparer pour quand j'allais revenir. Et ça, ça a été quand même génial, vraiment génial. Et voilà, donc il m'a accompagnée toutes ces années. Maintenant, je ne le vois plus que pour le plaisir de le voir, presque, j'ai envie de dire, une fois tous les 5 mois.
Pour une petite révision biannuelle.
Ouais, puis c'est quelqu'un que voilà, enfin que j'apprécie tellement. Puis oui, c'est quand même un soutien de loin. Il regarde comment je vis. Puis je crois que ça, enfin voilà, ça lui fait plaisir aussi de voir comment je vis aujourd'hui, comment je m'en suis sortie. Et il y a rien eu de spectaculaire. Hein, je me rends compte. Ça a vraiment été très lent. Mais je crois qu'une fois que j'ai appris qu'on est fondamentalement tout seul, qu'on ne doit rien attendre des autres. Et qu'avec soi-même, on peut passer des moments super géniaux et qu'on est soi-même pour soi une très bonne personne. C'est vraiment ça que j'ai développé. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sociable. Hein. J'adore mes enfants, j'adore mes amis, je suis quelqu'un de rieur. Mais je peux passer beaucoup de temps toute seule avec moi, à écouter la musique, à regarder l'ordinateur, à rêvasser, à rigoler. Enfin...
Ça, c'est un beau message. Merci beaucoup, Corinne.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci, vous aussi. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que Corinne, vous parliez de psychothérapie. On a parlé bien sûr des traitements médicaux. On a parlé aussi, il y a quelques messages qui sont arrivés de gens qui parlaient d'acupuncture. Et j'aimerais prendre dans un instant l'appel du docteur Denis Coster, qui lui est médecin anesthésiste et qui pratique l'EFT. Et j'aimerais discuter avec lui des bénéfices de l'EFT sur la dépression. On va l'écouter tout de suite.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Bonsoir Denis.
Bonsoir Sabine.
Merci d'être là avec nous.
Merci de l'invitation.
Alors, vous êtes anesthésiste et vous pratiquez l'EFT. Est-ce que vous pouvez déjà clairement expliquer ce que c'est que l'EFT ?
Oui, alors l'EFT, en fait, c'est un acronyme. Hein, c'est une technique américaine qui date des années 90. EFT signifie Emotional Freedom Technique, donc technique de libération des émotions.
Oui.
Donc le concept, on va dire, derrière cette technique, est de considérer que quand on a un blocage au niveau émotionnel, hein, c'est un petit peu comme si on avait une énergie qui était bloquée. Alors l'énergie vitale, c'est un concept qui n'est pas très courant dans nos pays occidentaux, mais en Orient, c'est un concept qui est assez connu, et quand en Orient, on a un blocage au niveau énergétique, on stimule des points d'acupuncture. Donc c'est un petit peu sur cette philosophie qu'est née cette technique dans les années 90, créée par un ingénieur de Stanford, Carrie Craig.
Et en cas de dépression, est-ce que c'est utile? Et si oui, comment?
Alors c'est utile sur beaucoup d'aspects. En fait, c'est une technique qui gère les émotions. Donc quand il y a une dépression, il y a de toute façon beaucoup d'émotions qui s'enchevêtrent. Oui. Il y a bien souvent une espèce de tristesse. Il peut y aussi avoir de la culpabilité, de la honte. Il peut y avoir une auto-dépréciation. Et toutes ces émotions, tout, on va dire ces pics émotionnels, peuvent bénéficier d'EFT. J'ai été assez touché par les témoignages que j'ai entendus précédemment. Et il y avait notamment des aspects que je trouvais très intéressants par rapport justement à la pratique de l'EFT. Notamment un de vos auditeurs qui parlait de l'importance d'une reprise en contact avec son propre corps. Et une autre auditrice qui parlait de l'importance de l'acceptation. Et effectivement, l'EFT, puisque c'est une technique qui consiste à stimuler des points d'acupuncture, donc à stimuler son corps, c'est une technique qui permet de répondre un petit peu aux émotions par leur réponse au niveau corporel. Et une des premières phases de la technique consiste à l'acceptation des émotions ressenties avant de pouvoir justement s'en débarrasser. Mm-hmm. Donc voilà, je pense que l'EFT a tout à fait sa place. Alors évidemment, ça n'a pas la prétention d'être une technique miracle ou de remplacer totalement une psychothérapie ou une prise en charge, bien évidemment, par un psychiatre. Hein. Ouais. Bien évidemment, hein, mais c'est une technique qui, en tout cas, a l'avantage d'être extrêmement simple. Hein, et surtout, la beauté de la technique, c'est qu'une fois qu'elle a été apprise lors d'un échange avec un thérapeute, la personne peut l'utiliser elle-même en auto-traitement, entre guillemets. C'est assez intéressant pour ça. Ça s'acquiert très, très vite. Alors, évidemment, après, il peut y avoir un suivi hein, par le thérapeute. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'autonomiser le plus vite possible la personne à partir du moment où elle a compris la technique.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a peut-être des gens qui vont se dire qu'ils ne se sentent pas capables de le faire. Dans ces cas-là, vous préconisez combien de séances d'EFT ?
De toute façon, il faut déjà... Alors, c'est difficile d'évaluer... Un nombre précis. De toute façon, il faut faire une première évaluation qui voit un petit peu la vie de la personne, hein, ce qu'on appelle l'anamnèse, qui permet de comprendre un petit peu les mécanismes qui ont conduit à la dépression. Mmh. Ensuite, donc, de toute façon, il y a des possibilités de faire de l'EFT directement sur les émotions ressenties à l'instant T. Après, il y a également des techniques EFT qui permettent d'aller un petit peu explorer et nettoyer un petit peu les éventuels traumas du passé qui pourrait être la cause ou une des causes de cette dépression. Donc ça dépend un petit peu si le patient nous offre entre guillemets que des émotions dans l'instant T, on va gérer les émotions à l'instant T. Maintenant, si on se rend compte qu'avec la technique on peut dérouler le fil d'Ariane et aller jusqu'à la cause, à ce moment-là on va pouvoir faire un travail un peu plus de fond.
Mmh. Aucune contre-indication ?
Aucune contre-indication. Une contre-indication.
Donc pas de contre-indication, relativement rapide et efficace et complémentaire à d'autres traitements plus classiques, entre guillemets. Donc l'EFT, bah merci Denis d'avoir ouvert cette fenêtre-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, avec vous ce soir, ont découvert l'EFT et qui peut-être n'avaient pas pensé que ça pouvait servir aussi dans un cas comme ça, pour la dépression.
Bah, disons que, comme disait Carrie Craig, hein, le créateur de l'EFT, essayez-le surtout. Hein, lui, c'était un petit peu son idée, puisque quand il a créé la technique, pour un petit peu l'évaluer, il a préconisé de l'utiliser sur toutes les indications. Et effectivement, c'est comme ça que la technique aussi s'est affinée et s'est construite. Et donc, elle a tout à fait sa place. Personnellement, je l'utilise pour la dépression, pour les phobies, pour le stress, pour les douleurs chroniques. Mm-hmm. Je l'utilise même régulièrement au cours de ma pratique. C'est un outil vraiment très, très pratique et qui, là encore, a tout à fait sa place dans la dépression, bien évidemment.
Merci Denis.
Merci Sabine.
Merci cet éclairage. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices.
Alors, racontez-moi un peu.
Alors, moi, je viens témoigner que, bon, pour les personnes qui sont dedans, qu'on arrive petit à petit à s'en sortir, peut-être pas complètement, mais il y a du mieux. On arrive en travaillant, en se faisant aider, bien sûr, médicaments et psychothérapeutes, psychiatres, on peut s'en sortir parce que moi, je croyais que ma vie était foutue, quoi, que je serais tout le temps...
Oui, quand on est dedans, on pourrait jurer que jamais on en sortira.
Oui, voilà, je pensais que c'était fichu, quoi, que...
Comment ça a commencé pour vous ?
Alors, je pense que quand j'étais jeune, ça devait pas être terrible, mais j'avais pas mis de nom hein, sur ce malaise à l'adolescence aussi. Et c'est lorsque j'ai eu mes enfants que là, il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux, quoi. Que
ils sont
montés. Oui, voilà, mais je me suis dit, comment se fait-il que lorsque mes enfants pleurent, j'avais l'impression de me réveiller un quart de seconde avant, même qu'ils pleurent, et d'aller les voir, quoi, bien sûr, tout de suite. Et je me disais, mais pourquoi ma mère n'a jamais fait ça pour moi? Pourquoi elle se levait pas? Enfin, voilà, ça m'a, pour moi, comme c'était la routine, qu'elle ne se lève pas, que c'était mon père qui venait me soigner ou.
Et oui,
voilà,
et quand on est petit, on n'a pas de point de comparaison, donc on croit que c'est normal.
Voilà, donc pour moi, tout ça était normal, et c'est lorsque j'ai eu mes propres enfants que j'ai réalisé beaucoup de choses. Mmh. Alors, est-ce que c'est ça qui a soulevé un malaise qui était.
C'est possible, tout à fait.
Depuis longtemps, mmh. Et puis d'autant plus que j'avais vu, je ne m'entendais pas du tout avec maman. Parce que j'avais l'impression qu'elle s'occupait pas du tout de moi. Donc, mais je voyais ma maman toujours couchée. Mais je comprenais pas. Personne ne mettait un nom sur sa maladie. Donc, je savais pas ce qu'elle avait, en fait. Et bon, ça provoquait des disputes, enfin, qui n'étaient pas toujours très justes. Et comme quoi j'étais la cause de son mal-être, quoi.
Oui.
Ce que je trouvais tout à fait injuste. Et puis quand ça m'est arrivé, j'ai mieux compris peut-être pourquoi elle n'avait pas pu s'occuper de moi. Si elle a été dans l'état où j'ai été à certains moments.
Et dans sa génération à elle, on mettait encore moins de mots là-dessus.
Ah oui, puis mes parents n'ont jamais. Je sais qu'un jour j'ai un peu craqué avec mes parents. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as? T'es toujours fatiguée. Enfin, et j'ai dit, voilà, je suis comme maman, je suis dépressive. Il y a eu un grand blanc. Non, c'était pas. Enfin bon. J'ai l'impression que je disais n'importe quoi, quoi. Et en fait, c'était ça.
Hein. Et
des fois, j'étais presque dans la provoque, quoi.
Oui, vous ne pouvez pas l'entendre, ça.
Non. Il ne fallait pas être malade.
Et vous, quel a été votre cheminement, alors?
Alors, à 20 ans, mes enfants vers 20 ans, vers 25, on va dire, les médecins ont commencé à trouver quand même des symptômes de dépression, de fatigue. Moi, je pensais que c'était la fatigue due à mes accouchements, aux enfants. J'étais un peu toute seule pour papa un peu absent, quoi. Et moi, je pensais que c'était cette fatigue-là qui. Je dormais en même temps que ma fille, par exemple. Je trouvais qu'elle se réveillait vite. J'avais encore besoin de dormir encore et encore. Et donc, les médecins m'ont dit de peut-être de consulter, mais je voulais pas, quelque part, je voulais pas ressembler à ma mère non plus. Enfin, c'était compliqué. Et puis, vers 30 ans, j'ai dû me rendre compte que non, ça n'allait pas, quoi. J'avais de plus en plus d'absence au travail, que je justifiais toujours en disant j'étais fatiguée, mais c'était bien au-delà de la fatigue. Et je restais dans mon lit.
Oui. Voilà. Ça, c'est assez commun, j'ai l'impression, à tout le monde, c'est cette envie de rester en boule.
Mais maintenant, je trouve que j'en suis un petit peu sortie. Depuis, on va dire, une dizaine d'années, ça va mieux, parce que j'étais bien accompagnée. Mais le fait de... Je vis dans mon lit encore, hein, il reste ça.
C'est le seul endroit où vous vous sentez vraiment en sécurité?
Oui. Donc, s'il n'y a plus que ça, c'est pas trop gênant. Et c'est pour ça, de l'autre côté, que j'ai choisi aussi de vivre toute seule, parce que j'ai quand même infligé ma dépression... mes enfants, mon mari. Donc, j'ai préféré me séparer et vivre toute seule pour pas faire endurer à tout le monde ce qui n'est pas facile non plus parce que, en fait, les gens ne savent pas toujours ce qu'il faut faire et des fois, ils ne peuvent rien faire. Mmh. Et c'est dur de faire comprendre que le malaise qu'on a ne vient que de nous.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous-même, cette dépression ?
En gros, maintenant, que quand même je vais mieux, j'ai l'impression de m'être reconstruite à l'aide d'une psychologue qui a été très... avec laquelle j'ai bien travaillé, en changeant d'ailleurs de région. J'étais en région parisienne avant, je suis venue en Bretagne. Et là, j'ai eu un accompagnement CMP, puis psychologue et psychiatre pour le traitement. Hein. Mais, je veux dire, ils m'ont mis... Je crois que je n'osais pas vivre. Et ils m'ont mis comme un filet de sécurité sous moi, quoi, en me disant, bah, si je peux quand même essayer, et si je tombe, ils sont là pour me rattraper, quoi.
C'est une belle image.
Et ça m'a permis d'aller un peu de l'avant, de me dire, bon, bah...
D'oser.
Oui, voilà, d'oser. Parce que je pense que je me visualisais comme une maison, construite sur pilotis, et puis les pilotis étaient branlants, quoi. J'avais pas de fondation, on peut dire.
Oui, on parlait tout à l'heure des failles, c'est un peu la même chose.
Oui. Donc, bah, je me suis dit, bah, il faut que je recommence, que je change de terrain, que... Mais même, je savais même pas trop qui j'étais, ce que je voulais. Je passais vraiment par des moments très, très pénibles, avec beaucoup de honte aussi.
Oui. Ça, c'est un point qu'on a beaucoup soulevé ce soir, la honte, quand on est touché par cette maladie. Alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte, mais on se dévalorise soi-même.
Oui.
On a peur de décevoir les autres, on a peur de se sentir incapable, impuissant.
Ah bah oui, il y a des moments où je ne pouvais plus rien faire. Hein.
Parce qu'une fois encore, ça ne se voit pas à l'extérieur, donc ça c'est difficile.
Voilà, moi j'aurais voulu qu'on puisse trouver un examen, une radio, n'importe quoi, apporter une preuve aux collègues de boulot que c'était pas de la flémardise, c'est que j'étais au 36e dessous. Mais bon, j'avais tendance à masquer le plus possible, même à être un peu le clown de service.
Comme vous dites, c'est un masque.
Oui, je ne me rendais pas compte, c'est maintenant que je me rends compte que, même vis-à-vis de mes petits-enfants, pour être me cacher derrière ça, essayer de montrer un côté plus gai, quoi. Parce que, en plus, ma peur, c'était de transmettre à mes propres enfants. Et même, vous voyez, maintenant, ils ont 46 et 44. Eh bien, je veille tout le temps, dès qu'il y en a un ou une qui me dit « je suis fatiguée », tout de suite, je suis en alerte.
Oui.
J'ai toujours peur d'avoir transmis ce qu'on m'a peut-être transmis, quoi, je ne sais pas.
Eh oui, la peur, la culpabilité, la honte, le sentiment d'échec. Et pourtant, on n'est ni inférieur ni malade mental quand on a une dépression. Il faut arriver à accepter ça, à en parler le plus naturellement du monde, à l'accepter soi-même et à le faire accepter aux autres. C'est le début de la reconstruction,
c'est vrai,
en fait.
Que... J'ai beaucoup lutté contre, puis j'ai essayé de trouver tout, quoi, tous les moyens. Et je me suis dit, si c'était comme à mon accouchement, où en fait j'ai accompagné la douleur, parce que j'avais pris des cours d'accouchement sans douleur, et ne pas lutter contre, ne pas se crisper et l'accepter, tant pis, je suis comme ça, et déjà là, il y a eu un petit mieux, au lieu de lutter...
Accompagner.
Parce que ça faisait trop d'années d'abord que je luttais sans résultat. Me laisser, c'est comme ça, c'est mon lot, je vais faire avec. Et puis petit à petit, on m'a fait faire des petits pas, j'avais peur de tout. Je garde encore des cicatrices, des séquelles. Si je dois aller par exemple chez mes enfants... J'ai toujours peur d'avoir à nouveau une crise de panique, une crise de mal-être.
Mais là aussi, c'est important ce que vous venez de dire. Petit à petit, un pas après l'autre. Souvent, quand on est en dépression, on aimerait tellement que les résultats soient spectaculaires qu'on se dit « j'y arriverai jamais, c'est trop ». Oui, si on veut le résultat final tout de suite, c'est trop. Mais si on accepte que chaque petit progrès, tout petit progrès, quelquefois le progrès, c'est juste, comme le disait tout à l'heure un des auditeurs qui a appelé, traverser la rue. Eh bien, c'est un progrès, un pas après l'autre jusqu'à ce qu'on avance.
Oui, oui.
Et souvent, tellement dur avec soi-même, on aimerait tellement être cette fameuse valeur perfection. Hein. Toujours, toujours, toujours être mieux, être parfait, réussir tout de suite.
Oui.
Et on se décourage parce qu'on n'y arrive pas tout de suite. Mais il faut vraiment se dire que les choses se font lentement, un pas après l'autre.
Oui, ça j'ai compris. Je croyais avoir appris un peu de distance. Depuis quelques années, là, j'étais relativement stable. Mais je me suis aperçue lors d'une visite chez mon fils, là, que Et bien, en fait, j'étais encore sur la corde raide et que le vide était pas loin. Ça m'a un peu déçue parce que je pensais avoir...
La différence par rapport à avant, c'est que maintenant, vous le savez. Et vous le voyez venir.
Je me croyais mieux, quoi. Enfin, je pensais pas que ça pouvait retomber aussi vite, quoi. Parce que, comme disait une des personnes, j'ai eu la peur de rechute aussi pendant très longtemps. J'avais l'impression que je pouvais retomber aussi bas que d'où j'étais partie.
Et au niveau du traitement, ça s'est passé comment pour vous, des médicaments ?
Alors, au tout début, je prenais mon médicament, puis dès que ça allait mieux, je prenais plus, donc j'ai pas respecté ce qu'on me disait. Donc, ça, c'est à ne pas faire. Et puis, au bout d'un moment, j'ai accepté, je me suis dit, on m'a dit, ça sera à vie, donc c'est pas la peine de faire votre propre... médication, quoi. Donc maintenant, je respecte. On me donne, je prends la quantité, quitte à diminuer par moment, à remonter si ça va un peu moins bien.
Là aussi, vous apprenez à vous écouter.
Voilà, j'écoute aussi ce qu'on me dit, parce que je suis en confiance aussi par rapport aux gens qui me suivent.
C'est important, ça.
Oui. Oui, trouver des personnes, ça, c'est important. Il vaut mieux changer de personne. Parce que moi, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps, 8 ans, avec une personne avec qui ça n'accrochait pas du tout.
Voilà un message important. Très souvent, quel que soit le thème, d'ailleurs, très souvent, dans cette libre antenne, des gens me disent « Oui, mais j'ai vu une psy, mais ça n'a pas marché. »
Oui.
Et ce que vous dites, et vraiment, je suis entièrement d'accord avec ça, ça vaut le coup de changer, même s'il faut changer plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne.
Voilà, on trouve tout de suite. Puis ça passe, en général, dès la première fois, on sent mieux, puis de mieux en mieux. Et c'est important de... Voilà, d'avoir confiance en la personne, de pouvoir tout lui dire sans être jugé.
Et vous avez trouvé la bonne personne, alors ?
Ah oui, oui. Je suis revenue en Bretagne. Je me disais, j'ai quitté la région parisienne. La dépression va rester là-bas. Maintenant, c'est une nouvelle vie. Eh ben non. Elle m'avait suivie aussi.
Oui, mais différemment. Je pense que vous arrivez quand même à prendre une petite distance maintenant.
Oui, donc c'est surtout pour dire aux personnes que moi j'ai, donc si on part de 20 ans, j'ai commencé vraiment à me soigner, je sais pas, à 50 ans, quoi, à vraiment rebâtir, quoi.
Se reconstruire, exactement.
Oui, alors je disais, des fois je disais, oh c'est trop tard, maintenant je suis comme ça à vie, je serai comme ma mère, je finirai comme ça. Et puis non. Et c'est pareil, j'essayais tout, je voyais toujours un grand mur de briques devant moi. Je savais pas pourquoi je pouvais pas... passer dessus, dessous, il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de pont. Et puis des fois je me disais, ah ça y est, j'ai démoli un petit bout du mur. Derrière le mur, il y avait encore un mur. J'ai eu l'impression que c'était un parcours du combattant.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même plus de positif que de négatif ?
Ah, plus de positif.
Bon.
Plus de positif. Maintenant, j'ai trouvé quand même... j'ai moins peur de sortir. Je suis un peu encore sauvage. J'aime pas. Ça dépend qui je trie, les personnes avec qui je suis.
Ouais, ça aussi, on a beaucoup entendu ça ce soir.
Ah oui.
C'est vraiment important.
Oui. Je fais attention parce que je veux pas de... J'ai eu des fois des personnes qui m'ont blessée, mais qui m'ont fait avancer en même temps, parce que je me souviens d'une collègue que j'avais croisée un midi, et on se voyait de temps en temps, elle m'avait dit « comment ça va ?» Puis j'avais dû lui faire « bof », parce que c'était pas une période terrible. Puis elle m'a dit, mais sans méchanceté, elle m'a dit simplement « je crois que toi, depuis que je te connais, c'est toujours « bof ». Alors, j'ai été vexée, ça m'a fait mal, mais je me suis dit, mais elle a raison, quoi. Elle a raison, c'est vrai que c'est toujours bof, pour pas dire je vais pas bien, quoi. Et bon, faut aussi, des fois, ça, des petites remarques comme ça font avancer, on se dit, oh, je peux pas rester dans cet état-là, il faut que je fasse quelque chose, faut que je vive.
Oui, vous, ça vous a boosté, mais c'est ce genre de remarque, ça peut faire très mal aussi.
Oh oui, ça peut faire très mal, mais j'en ai voulu en même temps. Puis après, avec le recul, je me suis dit, oui, elle a raison. elle de l'extérieur, en pleine forme, ne connaissant pas ça. Et la première personne qui m'a réconfortée, qui m'a dit « moi je vis dans mon lit, je fais mes papiers dans mon lit », ça m'a fait du bien.
Ça fait du bien de ne pas se sentir seule.
Pas toute seule. Hein. Oui.
Et je pense que j'espère que ça va être un des grands bénéfices de cette émission ce soir, c'est que tout le monde sache qu'on n'est pas seul quand ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Merci Michel pour ce témoignage. J'ai beaucoup d'appels ce soir. Je vous embrasse.
Oui.
Je vous embrasse. Et on va écouter maintenant Patricia qui a un témoignage assez positif qu'elle aimerait partager avec nous.
Au revoir Michel. Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et bonsoir Patricia.
Oui, bonsoir Sabine.
Vous voulez intervenir?
Oui, j'y tiens fortement. Je suis contente d'être sélectionnée. Je vous remercie de me laisser la possibilité de m'exprimer. Par rapport à cette, je sais pas si on peut appeler ça maladie ou état psychologique, voilà. Moi, en fait, je suis infirmière, j'ai fait des études de psycho jusqu'en maîtrise. Mm-hmm. C'était pas par hasard, je le savais, parce que j'avais une sensibilité extrême par rapport aux sciences humaines, aux relations humaines. Vous parliez tout à l'heure de souffrance transgénérationnelle. Moi, je crois que c'est le cas. C'est-à-dire, je vis une génération, une famille de dépressifs. Ma mère, mon frère, mes tantes, moi-même. Je me croyais à l'abri en les regardant souffrir. Je me disais, moi, je vais y arriver. Moi, je vais lutter. Moi, je vais pas déprimer, je vais pas faire de dépression. Hein. Et puis j'avais un prof de psycho qui me disait, oh écoutez, vous êtes solide, ça vous arrivera jamais. Et puis en 2003, je me lève un matin et brutalement, face à mon miroir, je me demande qui je suis, qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'existe. Oui. C'était brutal, comme une claque dans la figure. Et je me suis demandé ce qui m'arrivait, et puis ça a été la descente aux enfers. C'est-à-dire, c'est vraiment la traversée du désert, comme je disais tout à l'heure. Il y a des hauts, il y a des bas, on a l'impression qu'on va y arriver, puis on replonge, et de plus en plus bas, et après j'ai fait 5 TS. Je voulais supprimer la souffrance, comme disaient les autres personnes.
Il faut que ça s'arrête.
En fait, je voulais pas mettre fin à ma vie, non. J'aimais ma vie, j'aimais mes enfants, j'aimais ma famille. Quand la police m'a cherché, les pompiers m'ont cherché dans la rue parce que je m'étais cachée. Quand ils m'ont trouvé, la police m'a dit, mais enfin, comment est-ce que vous pouvez mettre fin à vos jours avec des jeunes enfants, avec une famille, c'est pas raisonnable, madame.
Comme si vous l'aviez fait exprès.
Oui, je me suis culpabilisée, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai, comment. Mais je me dis, est-ce qu'elle sait que j'y peux rien? Que j'y peux rien, que c'est plus fort que moi, que je le subis physiquement, mentalement, et que même si on me dit « faites un effort », comme le disait mon mari chaque soir, il me disait « écoute Patricia, je te donne encore un mois pour t'en sortir, ça devient impossible, fais un effort, viens à table, mange, sors du lit ». Je me disais, il comprend pas.
Non,
ça dépend pas de ma volonté.
L'entourage a du mal à comprendre.
Non, on n'est pas compris. Parce qu'on croit qu'on est malade et qu'on va faire un effort et qu'on va pouvoir.
C'est comme si on disait à quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre pour aller faire un marathon, allez, prends sur toi, fais un effort, tu vas y arriver.
Oui.
C'est aussi stupide que ça en réalité.
C'est mission impossible, hein, là. Et puis on se sent totalement incompris. Hein. C'est une maladie qui gagnerait à être, à être comprise.
Mais c'est pour ça aussi qu'on fait des émissions comme ce soir, vous voyez, pour
partager. Oui, voilà, c'est pour ça que je veux témoigner, parce que j'ai souffert de ça, de ne pas être comprise. Après, j'ai repris en mi-temps thérapeutique, parce que je suis infirmière, et les collègues m'ont vu revenir un peu fragile encore, et elles m'ont totalement jugée dépressive.
Même dans un milieu médical comme ça, alors.
Oui. D'avoir pu chuter comme ça, quelle faiblesse, quel manque de volonté, quelle... Alors après, j'ai passé un concours et j'ai changé d'administration. Je me suis prouvée à moi-même que j'étais quelqu'un par rapport à tous ces jugements négatifs. Et puis, voilà, j'ai eu d'énormes responsabilités. Et puis des relations humaines beaucoup plus intenses, plus profondes avec
là
les
aussi,
autres.
Là aussi, on va à l'essentiel après.
Oui, et les autres ne comprenaient pas ce que j'avais comme sensibilité dans mon travail, cette relation incroyable d'écoute et
d'empathie.
D'empathie pour les autres. Et elle me disait, c'est vraiment exceptionnel. Bon, moi, j'en sais pas ce qui m'était arrivé, mais je me disais, bon, ça m'a appris sur les êtres humains. J'étais quelqu'un d'humain, mais là, beaucoup, beaucoup plus à l'écoute, oui, encore.
Et alors, vous, au niveau des traitements, comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que vous avez arrêté?
Si toi,
vous
avez alors, arrêté, moi, je témoigne parce que c'est moi-même qui ai senti que ça n'allait plus du tout. Et un jour, je me suis rendue aux urgences psychiatriques et j'ai été hospitalisée une nuit. Au matin, j'étais vue par une équipe qui m'a dit, madame, on va vous donner un traitement. Moi, j'ai vu ma mère sous traitement qui ressemblait à un légume dans un lit qui réagissait plus. Alors, je leur ai dit, moi, je veux pas de traitement, je veux pas qu'on me soigne, je veux pas qu'on m'hospitalise, je veux rentrer chez moi finalement. Et ils m'ont dit, non, vous allez vous en sortir, écoutez-nous bien. Prenez le traitement qu'on va vous donner et vous allez voir le jour, vous allez revoir la vie. Parce que moi, mon problème, c'est que je rigolais plus, je riais plus, je mangeais plus, je dormais plus, je vivais plus. Et ils m'ont dit, vous allez revivre. Donc, j'ai pris le traitement. Je suis restée qu'une nuit. Hein. Le lendemain, j'ai signé une décharge parce que je me vivais très mal en psychiatrie. Pour avoir fait des études de psycho et avoir fait des stages en psychiatrie, pour moi, je me disais, t'es en dessous de tout. Enfin, je m'auto-jugeais. Et donc, j'ai pris le traitement. Après, j'ai cherché un psychiatre que j'ai trouvé après avoir consulté 10 psychiatres qui voulaient me faire apprendre à jouer de la guitare.
10 ?
Oui, une dizaine de psychiatres. J'arrivais pas à trouver quelqu'un qui me comprenne et qui veuille me soigner sans m'hospitaliser. Et j'en ai trouvé un qui m'a prise en main et qui m'a dit je vais m'occuper de vous. Vous allez vous en sortir si vous faites ce que je vous dis. Et vous ne lisez pas les notices sur les médicaments et vous prenez, vous avalez. Et j'ai avalé. Contrainte et forcée, j'ai pris sur moi et j'ai vu progressivement le bout du tunnel. C'est-à-dire je suis sortie progressivement de cet état de torpeur, de mort, de coma. Mmh. Et en fait, j'étais étonnée parce que les traitements, je voudrais le dire, ils n'en succombent pas autant qu'on le croit. On n'est pas transformé en zombie.
Non, c'est quand ils sont cumulés avec des anxiolytiques que ça en suque un peu.
Voilà.
C'est pas l'antidépresseur principalement, ce sont les calmants.
Non. Non, voilà, on arrive à voir clair, à faire sa vie, à enfin faire son petit ménage, faire le lit.
Des choses qui paraissent si simples.
Ça,
avant,
des trucs, écoutez, rien que faire le lit quand j'étais malade, je regardais les draps, je me disais, il faut tirer les draps, il faut que les enfants aient leur lit fait, mais comment je vais faire,
C'est comme si la prise électrique était débranchée, en fait. Le fil pend et il n'y a plus aucun jus.
Oui, on n'a plus de force, plus d'énergie, plus rien, plus rien. On n'existe plus. Et puis, les médicaments m'ont beaucoup aidé, c'est ce que je voulais dire. Et je pense qu'ils m'ont guéri, oui. Enfin, guéri, je suis toujours susceptible de rechuter, hein. Mais quand même, ça m'a éclairé, ça m'a permis de repartir travailler, d'avoir à nouveau des relations avec les autres. Et puis aujourd'hui, voilà, je revis complètement. Et en plus, je sors de cette expérience grandie. Je suis suis fière d'être, de m'être battue, de m'en sortir, et je m'en fous qu'on m'ait jugée. Je me dis, finalement, je sais ce que je vaux. Et j'ai un peu perdu confiance en moi quand même, parce que j'étais quelqu'un de très, très énergique, indispensable au travail.
Et pourtant, quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez tellement appris.
Oui, beaucoup.
Cette confiance, j'ai l'impression de l'entendre pourtant là ce soir.
Oui, oui, je l'ai aujourd'hui. Je l'ai. J'ai eu une période où j'ai eu moins confiance en moi, où en réunion, j'osais plus m'affirmer comme je l'étais. Je savais prendre la parole. Et là, j'osais plus prendre la parole devant un groupe. Donc mon chef de service me disait, Patricia, on ne vous entend pas en réunion. Et je lui disais, ça va venir. Bon, et c'est venu.
Comment vous avez reconstruit cette confiance-là ? Tout à l'heure, Jean-François nous parlait de sport de combat. D'autres mentionnent aussi des promenades dans la forêt, de la méditation. Par quel chemin vous êtes passé pour retrouver la confiance ?
Moi, ce que je vous disais, c'est curieux. En fait, moi, je n'étais pas croyante du tout, mais alors pas du tout, hein. Et j'avais à côté de chez moi, pas un monastère, mais enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est des sœurs qui vivent à côté de chez moi et à qui j'ai confié que ça n'allait pas du tout. J'étais dans la rue, complètement paumée. Je leur disais, je suis perdue, ma sœur, je suis perdue. Et écoutez, il y en a une qui m'a prise en affection et qui a créé comme un défi de me sortir de cet état. Et elle m'a accompagnée, elle m'a montré la beauté de la nature, parce que j'habite au bord de la mer. Et elle s'asseyait avec moi, elle me disait, regarde Patricia, le coucher de soleil. Regarde, c'est, je sais pas, elle me disait, tu vois, le bon Dieu, il a créé tout ça. Voilà, elle me raccrochait à la vie. Et progressivement, elle m'a fait faire une retraite. Retraite avec un groupe de parole où j'ai témoigné de ce que c'est, où j'ai été très, très, très bien accompagnée, très, très soutenue par les autres membres de la retraite, qui étaient des gens croyants, et qui m'ont aidée, qui m'ont dit, tu vas t'en sortir. J'étais quand même dans un état catastrophique quand j'ai fait cette retraite. Hein. Mm-hmm. Ah oui, profond. Hein. Et elle me disait, tu vas t'en sortir. Et puis après, je me suis rendue à Lourdes. Parce que franchement, quand on traverse ce désert, on se dit, on va pas y arriver. Il n'y a qu'un miracle qui va me sortir de là. Et je me suis rendue à Lourdes, j'ai fait 5-6 fois, j'ai touché le rocher, la Vierge, j'ai prié. Et ben, quand je suis revenue chez moi, quelques temps après, je sais pas si c'est en relation ou je sais rien. Mais enfin, tout ça, ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me dire, tu vas y arriver, effectivement. Et comme une méthode couée, je positivais, je me disais, de toute façon, tu vas t'en sortir. Et je m'en suis sortie. Entre les médicaments, l'aide des personnes qui m'ont aidée, qui ont bien voulu m'écouter, me comprendre. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on se sent très seul, très isolé, seul avec soi-même et incompris. Et quand quelqu'un nous comprend, ben on s'accroche à lui. Enfin, on essaye de ne pas le plonger, mais...
Oui, ça, bon. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, ce que vous dites là, ce soir.
Oui, et à force de positiver, de me dire que je vais y arriver, et les médicaments qui m'ont sorti, le psychiatre qui m'appelait à la maison, comment ça va ce soir, qui appelait mon mari, comment elle va, oh, je me suis sentie épaulée, c'est énorme. Et je m'en suis sortie, je veux dire, à ceux qui le traversent, qu'on s'en sort. Voilà, on s'en sort. C'est très difficile de le traverser, mais il faut y croire. Voilà, c'est comme une croyance, finalement.
Et vous, Patricia, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont aidé ?
Eh bien, si je vous disais, j'ai acheté Philippe Labro.
Ah, décidément.
Oui, je l'ai acheté parce qu'on me l'a conseillé. Mm-hmm. On m'a dit, lis ce bouquin. Je l'achète. J'étais un peu sortie de la dépression. Et je me suis dit, tiens, je vais le lire. Je lis la première page, la deuxième page. Et ça m'a pris au ventre, ça m'a pris de façon viscérale. Je me suis dit, je ne peux pas continuer. C'est tellement vrai ce qu'il dit que c'est trop fort de relire ça. J'avais envie de pleurer, je me suis dit non, j'y arrive pas. Je l'ai dans ma bibliothèque, j'ose pas l'approcher.
Ah, ça viendra, vous verrez. Alors, puisque vous parliez de pensée positive tout à l'heure, j'en ai un à vous conseiller, oui, qui est tout simplement La pensée positive pour les nuls, qui a été écrit par Anna Lancelot.
Oui.
Alain est quelqu'un qui a fait une très violente dépression et qui parle très bien de ça aussi. La pensée positive pour les nuls, c'est un très bon bouquin.
Pour les nuls. Et l'auteur, c'est
Alain Lancelot. Patricia, merci de votre témoignage.
Oui.
Merci pour ce joli sourire.
Merci.
On va terminer là-dessus.
Merci de m'avoir reçu.
Je vous embrasse.
J'écoute votre émission régulièrement. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir. La Libre Antenne s'est terminée pour ce soir. À partir de demain soir, vous retrouverez Sophie Peters avec grand plaisir, je le sais. Merci à Patricia, à Michel, à Denis, à Corinne. Merci à Jean-François. Merci à Christine d'être venu ce soir nous parler de ce sujet si délicat qu'est la dépression. Moi, je vous retrouve vendredi prochain à partir de 22h30 avec le même plaisir. Je vous propose déjà dimanche prochain une nouvelle thématique autour du divorce. Divorce compliqué, divorce surprenant, divorce douloureux. Inscrivez-vous en appelant le 3921 ou par mail libreantenne@europe1.fr. Je vous quitte, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain.